Bonjour. Un aspect un peu insolite de cette période que nous vivons, et il y a beaucoup d'aspects insolites, est que toutes les infos sont les mêmes. Dans tous les domaines, il est question du coronavirus, que ce soit dans les infos du journal télévisé ou dans les infos sur Internet. La politique parle de ça, la culture, les choses sont annulées à cause de cela, les infos internationales. Coronavirus dans tous les pays. Les people, Tom Hanks par exemple a été atteint. Le sport, question de remise de toutes les activités sportives à plus tard, et puis même certains footballeurs comme Paulo Dybala ou Marouane Fellaini sont atteints. Et dans ce contexte, parler d'autre chose peut sembler un peu détaché de la réalité. J'ai lutté avec cette question. Devons-nous parler d'autre chose que du coronavirus? Et il me semble que oui, la Bible aborde beaucoup d'autres sujets et qu'il est important d'avoir cette possibilité de changer le sujet. Pas pour nous voiler la face ou pour fuir le problème, mais pour nous souvenir qu'au-delà du présent, il y a un avenir. Au-delà de ce monde, il y a un royaume. Jésus a dit: Mon royaume n'est pas de ce monde. Je parle là du royaume de Dieu, plus ancien et plus puissant, royaume international avec Christ, notre roi. Ce royaume se manifeste là où Jésus règne déjà, même si bien sûr sa totalité est encore à venir. Qu'est-ce que le royaume de Dieu nous a déjà apporté? Quelles sont ses caractéristiques? Il y a différentes réponses à ces questions, bien entendu. On pourrait se retrouver un jour et poser la question autour de la table, comme on le faisait avec nos groupes d'études bibliques, et on aurait différentes personnes qui répondraient. Une personne dirait « Le royaume de Dieu nous a apporté le pardon des péchés et la vie éternelle. » Quelqu'un d'autre peut-être répondrait « La foi, l'amour, l'espérance. » Qualité du royaume, la foi, l'amour, l'espérance. Quelqu'un d'autre répondrait, il nous a apporté la grâce, la liberté. Ou encore, la justice, la paix et la joie. Quelqu'un d'autre, ça m'a permis de manger du porc et de boire du vin. Là, ce n'est pas si important. On comprend tout de suite que ce genre de réflexion n'est pas à la hauteur des autres réponses. Il y a quelques années, je côtoyais un jeune Marocain qui s'était converti au christianisme. Il témoignait d'une vraie relation avec Dieu. Il avait compris que Dieu l'aimait et que Jésus était sacrifié pour lui. Quelles questions croyez-vous que les jeunes musulmans lui posaient quand il leur disait qu'il était chrétien? Souvent, les premières questions qu'il lui posait étaient: Est-ce que tu manges du porc? Est-ce que tu bois de l'alcool? Et quelles que soient les réponses à ces questions, on doit dire, là n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas le plus important dans sa vie en tant que chrétien. Alors nous sommes actuellement à l'écoute de l'épître aux Romains. Après avoir expliqué la bonne nouvelle de la Bible au chapitre 1 à 6, à 1 à 5, et comment nous pouvons expérimenter cette nouvelle vie avec Dieu, le chapitre 6 à 8, l'auteur nous explique la vie chrétienne, au chapitre 12 principalement, concernant l'amour envers des amis et envers des ennemis. Et puis au chapitre 13, nous avons vu notre relation avec l'État, mais aussi des questions éthiques. Le chapitre 14 s'adressait à une question d'Église et de différence d'opinion. Paul, l'écrivain de cette lettre, ne connaissait pas tous les chrétiens de l'Église évangélique de Rome, mais il en connaissait quelques-uns. Et il savait sûrement que quand il y a des chrétiens ensemble, de différents arrière-plans, il y a des défis par rapport à des différences d'opinion. J'ai bien apprécié la prédication de Léon la semaine passée, qui nous a parlé à travers de Romains chapitre 14, la première partie du chapitre. Et il évoquait les sujets où nous ne sommes pas tous d'accord, en nous encourageant à ne pas être trop restrictifs. Vous vous souvenez, certains restreignent des choses qui pourtant sont permises par Dieu. Et il nous encourageait aussi à ne pas juger notre frère ou notre sœur en Christ. Nous sommes redevables à Dieu. Dans ce que nous allons entendre aujourd'hui, le principe sera le suivant. Ne soyez pas si attachés à votre liberté chrétienne que vous faites des dommages collatéraux. Ne soyez pas si attachés à votre liberté chrétienne que vous oubliez l'essentiel du royaume de Dieu. Et j'ai intitulé ce message « Poursuivre Christ et la paix édifiante ». Je vais lire en Romains 14 et permettez-moi de clarifier juste avant de lire, quand il sera question des faibles ici, ce ne sont pas des personnes faibles ou malades, ni des personnes qui n'ont pas beaucoup de foi, ni des personnes vulnérables à la tentation. Ce sont des personnes qui sont faibles en termes de leur liberté, qui ne se sentent pas tout à fait libres de faire ce que Dieu a pourtant permis. Donc, ouvrons notre Bible, ce sera utile d'avoir l'Épître aux Romains devant vous, et de regarder le chapitre 14 à partir du verset 13. Romains 14, verset 13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais veillez plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère. Je sais, je suis convaincu dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Mais si quelqu'un considère telle chose comme impure, alors elle est impure pour lui. Si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges, tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ta nourriture la perte de celui pour lequel Christ est mort. Que ce qui est bon pour vous ne devienne pas un sujet de calomnie. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à entretenir la paix et à nous faire grandir mutuellement dans la foi. Pour de la nourriture, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Certes, tout est pur, mais il est mal de manger quelque chose si cela représente un obstacle pour quelqu'un. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de t'abstenir de ce qui peut être pour ton frère un obstacle, un piège ou une source de faiblesse. Cette foi que tu as, garde-la pour toi devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même par ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'agit pas par une conviction de foi, et tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et de ne pas rechercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien, en vue de le faire grandir dans la foi. En effet, Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait, mais comme il est écrit, les injures de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi. Jusque-là, notre lecture de la Bible. Ce que nous lisons là vient du cœur pastoral de Paul et tout tient ensemble, en quelque sorte, c'est juste une thématique. Mais on va le voir en partie. Tout d'abord, ne mettez pas un obstacle devant votre frère. Ne mettez pas un obstacle devant votre frère. Ici, il est question de nos démarches entre chrétiens. Il y a aussi de la sensibilité à avoir envers les gens du dehors. Paul explique cela en 1 Corinthiens chapitre 9. Mais ici, c'est comment nous sommes vis-à-vis des chrétiens. C'est très important de nous souvenir qu'il s'agit de frères. On pourrait penser que ce sont des légalistes, mais non, ce sont simplement des frères en Christ, Paul le souligne plusieurs fois, mais des frères qui ont une conscience sensible. Nous devons toujours réfléchir selon la Bible, il y a des choses qui sont clairement interdites par Dieu dans la Bible, mentir, l'ivrognerie, l'immoralité sexuelle, là il n'y a pas de discussion à avoir. Mais dans quelques autres domaines, il n'y a pas de commandement de la part de Dieu, ni d'interdiction dans la Bible. Il ne dit pas « il faut manger du porc », ni « il ne faut pas en manger ». Comment agissons-nous dans ces domaines où il n'y a pas d'indication, il n'y a pas de commandement ou d'interdiction? Je dois être convaincu de ma position. Verset 5 disait que chacun ait dans son esprit une pleine conviction. Pas d'une conviction inamovible, mais raisonnable, basée sur une réflexion personnelle. Paul exprime la sienne au verset 14, « Je suis convaincu dans le Seigneur Jésus. » Et il affiche même sa conviction. Pour la première fois dans ce chapitre, il va expliquer la réponse. La nourriture n'est pas impure. Vous connaissez peut-être cette étrange vision qu'a eue Pierre, le disciple de Jésus, où Dieu lui a révélé que rien n'était impur maintenant. Mais ce n'est pas la fin de la discussion. Au verset 14, Paul explique que, pour quelqu'un d'autre, ça pourrait être impur. Et donc, il ne faut pas mettre d'obstacle devant lui. Ce n'est pas aimable, ce n'est pas de l'amour de ma part, si je rends triste mon frère. À l'université, une personne que j'avais rencontrée était une jeune femme galloise du pays de Galles. Elle était chrétienne, une chrétienne sérieuse et engagée, et elle venait d'un arrière-plan baptiste ou des darbistes, je ne sais plus. Mais elle avait décidé de ne pas boire d'alcool, elle ne buvait pas d'alcool du tout. Et elle aurait été attristée si des chrétiens lui disaient oh, viens boire un verre avec nous. Ce qui aurait été acceptable pour eux, de boire de l'alcool, serait nocif pour elle. Ça pourrait même être destructif. Alors il faut expliquer la notion de perte au verset 15, où il est dit que le chrétien fort pourrait causer la perte du chrétien faible. Littéralement, il insiste, ne détruis pas celui pour qui Christ est mort. Est-ce possible qu'il aille à sa perte éternelle à cause de mes agissements? Je pense que c'est aller trop loin. Timothy Keller écrit, et j'ai bien apprécié ce qu'il a écrit par rapport à cela, par rapport à l'épître aux Romains et cette section en particulier. Presque tout le chapitre 8, dit-il, explique que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Donc nous ne pouvons pas conclure que les forts ont le pouvoir de détruire le christianisme de quelqu'un. Fin de citation. C'est pas possible que mon frère chrétien soit perdu. Mais il est possible de détruire quelqu'un, dans le sens que nous l'utilisons en parlant, en disant que sa vie est gâchée ou que sa foi est démolie. Le parallèle est détruire l'œuvre de Dieu au verset 20. Et cette œuvre-là, Dieu a beaucoup d'œuvres, bien sûr, cette œuvre de Dieu-là, c'est quand il crée le caractère chrétien, la maturité, la sagesse chez quelqu'un, une œuvre qui prend beaucoup de temps, qui prend des années. Et tout cela peut être gâché, retardé, par un traitement stupide d'un chrétien, même si ce chrétien avait raison. Et qu'il avait le droit de manger du porc, par exemple. Les conséquences, donc, sont graves, mais elles ne sont pas éternelles. Mes agissements ne peuvent pas perdre quelqu'un, d'autant plus que le verset souligne celui pour lequel Christ est mort. Verset 15. Christ, en mourant à la croix, portait nos fautes, payait toute la dette que nous devions envers Dieu. Le chrétien faible ne peut pas être perdu après ce paiement-là. Christ est mort pour lui. Mais il peut être démoli, il peut être blessé. Je peux casser l'élan de sa foi. Je peux retarder sa maturité. N'est-ce pas vrai? Si vous faites des efforts pour plaire à Dieu, que vous privez de certaines choses, n'est-ce pas décourageant de voir d'autres chrétiens qui profitent de la vie sans se priver de quoi que ce soit? Mettez-vous à la place du faible dans ce scénario. Dur de voir le chrétien fort qui profite de sa liberté. Mais alors nous risquons de tomber dans un légalisme où on doit ajouter aux règles que Dieu a données au lieu de simplement les accepter. Et le verset 17 de notre passage est clé. Relisons le verset 17. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie. Par le Saint-Esprit. Justice, paix et joie. Ces choses comptent infiniment plus que la liste des courses à faire ou à ne pas faire. À beaucoup d'endroits de la Bible, les croyants ont recherché une relation juste avec Dieu, qui était en paix avec eux et qui leur donnait la joie. Ces choses-là reviennent souvent. Juste un exemple parmi tant d'autres. Jetez un coup d'œil au psaume 4. Le psaume 4, où David prie ceci au verset 2, Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Quand j'étais dans la détresse, tu m'as mis au large. Et puis plus loin, dans ce même psaume 4, au verset 6 à 9, offrez des sacrifices conformes à la justice et confiez-vous en l'Éternel. Beaucoup disent, qui nous fera voir le bonheur? Fais briller la lumière de ton visage sur nous, Éternel. Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en éprouvent, quand abondent leur blé, leur vin et leur huile. Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car c'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. Vous avez entendu ces mêmes accents? La justice, la joie et la paix sont présents. Et ce sont là les choses que nous devons trouver. C'est si important de trouver ces choses. C'est possible. Maintenant, par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui agit en nous et transforme notre existence. Et ce n'est pas une expérience unique où je trouve la joie et la paix avec Dieu quand je lui ai demandé pardon pour mes fautes il y a 30 ans. Non, c'est une expérience quotidienne du chrétien de se réjouir en Dieu, de rechercher sa paix en Dieu. Au lieu de vivre l'opposé qui serait vivre le péché, la tristesse et le conflit, je vis avec Christ maintenant. Et servir Dieu, selon notre chapitre Romains 14, verset 18, celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Formidable pouvoir plaire à Dieu. Mais on voit que les deux aspects sont présents, n'est-ce pas? Agréable à Dieu et éprouvé des hommes. C'est bien sûr Dieu qui nous juge. C'est son opinion qui compte le plus. Nous ne pouvons pas vivre notre vie pour être approuvés des gens. C'est très fatigant. Mais l'approbation des gens est quand même possible. Et il est recommandé aux chrétiens. N'ayez pas cette attitude d'indifférence envers le prochain, qui est, bon, je sais que j'ai raison, donc tant pis si les autres sont choqués. Non, non. Ne mettez pas un obstacle devant votre frère. Si possible, cherchez à être approuvé des hommes quand vous êtes agréable à Dieu. La deuxième partie, la partie centrale, se résume à dire ceci, recherchez ce qui contribue à la paix et à l'édification. Recherchez ce qui contribue à la paix et à l'édification, les versets 19 à 23. Ça découle bien sûr du point précédent. Vu que le royaume de Dieu est un royaume de paix, recherchons ce qui contribue à la paix, verset 19. Soyons prêts à édifier. Certains d'entre vous, je sais, travaillent dans la construction. Même si ce n'est pas votre cas, le Belge a une brique dans le ventre. Donc vous allez comprendre l'image que Paul utilise ici. C'est celle d'un bâtiment. Soit on construit, c'est le verbe qui est traduit faire grandir au verset 19, soit on démolit. Le verbe traduit détruit, verset 21. Soit on construit une maison, une habitation, soit on abat des murs et on démolit des choses, on casse des choses. L'image est parlante, n'est-ce pas? Êtes-vous un chrétien constructeur ou un chrétien marteau-piqueur? Est-ce que vous renforcez la foi de ceux qui vous écoutent? Ont-ils reçu un encouragement dans la paix, de votre joie? De votre sérieux dans la foi? Ou est-ce qu'ils repartent démolis parce que vous ne faisiez que montrer votre différence d'eux, votre incompréhension de leur foi et de leur façon de vivre pour Dieu? Paul revient à son appel au verset 20. Pour de la nourriture, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. Avec le parallèle du verset 15, ne cause pas par ta nourriture de tort à celui pour lequel Christ est mort. Jésus n'est pas mort pour que tu aies une tartine au jambon. C'est permis, bien sûr, mais ce n'est pas primordial. J'imagine un souper entre quatre membres de l'Église évangélique de Rome au 1er siècle, et peut-être qui participerait. Benjamin, un jeune d'arrière-plan juif, n'apporte pas de porc. Pour lui, ce qui est cachère est encore important. Par contre, Myriam, une femme d'arrière-plan juif, croit que tout est maintenant pur et elle a apporté des fruits de mer et du homard. En face d'eux à table se trouvent deux autres jeunes chrétiens, Mais eux sont d'arrière-plan grec, Hermas et Tryphena. En tant que chrétien, Hermas a insisté auprès du boucher au marché de ne pas lui vendre de la viande impure. Tandis que Tryphena, elle, a amené du vin et de la viande sans poser les questions. Alors qui a raison? Ben, les femmes dans cette illustration avaient raison. Les hommes étaient faibles, voyez-vous, et ils voulaient encore respecter certaines règles. Il peut bien sûr y avoir des femmes faibles également, mais ce n'était pas le cas dans mon illustration. Mais comment agir dans cette situation avec quatre personnes à table? Eh bien, Paul voulait qu'ils prennent cela à cœur pour que ils changent leur pratique. En pratique, oui, tu peux manger. Chez toi, tu peux manger de tout. Mais il y a deux restrictions. Ne mange pas ce qui choque ton frère. Verset 21. Et ne le force pas à le manger. Verset 23. Tryphena et Myriam devraient mettre leurs aliments de côté. Garde-le entre toi et Dieu, dit Paul. S'il prend ton vin et ta viande quand il n'est pas sûr qu'il devrait prendre part, c'est grave. Il va contre sa conscience et il est condamné, pas dans le sens éternel, mais dans le sens qu'il pêche et que Dieu désapprouve son geste. Alors on a parlé de nourriture, mais je pense que pour nous, il y a d'autres domaines. Danser, par exemple. Une personne peut sentir que c'est mondain de danser. La Bible ne dit pas qu'il faut danser, elle ne dit pas qu'on ne peut pas danser. C'est un cadre où il y a différentes opinions. Même si c'est difficile, celui ou celle qui se sent libre de danser doit d'abord considérer la sensibilité de celui qui pense que c'est inadmissible, et donc s'abstenir, au moins dans sa présence. Ou un autre domaine, ce serait la musique. Voyez-vous quelqu'un qui est sauvé d'une vie qui était rebelle à Dieu et qui écoutait à ce moment-là, en tant que non-croyant, une certaine musique, que ce soit Elvis ou les Rolling Stones ou les groupes de heavy metal ou les boys bands des années 90 ou encore la musique dance ou hip-hop, il va toujours associer cette musique avec sa vie non-chrétienne. Pour lui, arrêter d'écouter cette musique fera partie de sa repentance. Et c'est bien qu'il y ait des choses qui changent quand on devient chrétien. Mais quelqu'un d'autre qui est dans l'Église n'aura pas ces mêmes associations, se sentira libre d'écouter ces musiques sans penser particulièrement aux messages ou aux connotations de ce monde. Et il faut pouvoir les comprendre. Attention à ne pas croire que quelqu'un est forcément mondain ou pas vraiment chrétien, juste à cause de certaines choses secondaires comme sa musique ou sa coiffure. Le fort dira « Je suis libre », mais le faible dira « Non, non, ce que tu fais est mal ». Alors là, avec quelques exemples contemporains, on voit où cette instruction risque d'être difficile, n'est-ce pas? Et le verset 21 dit ceci. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin, et de t'abstenir de ce qui peut être pour ton frère un obstacle, un piège ou une source de faiblesse. Donc nous arrivons à la dernière partie. Je vais relire le chapitre 15, verset 1. Nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et de ne pas rechercher ce qui nous plaît. Le troisième point est très simple. Ne recherchez pas votre plaisir avant tout. Le verset 1 dit supporter l'autre au lieu de rechercher ce qui nous plaît. On doit le reconnaître tout de suite. La vie chrétienne, qui est une vie de joie et de bonheur, n'est pas aussi chouette que je pourrais l'imaginer. Peut-être que tu pourrais imaginer une église avec plus de gens comme toi, moins de gens différents, moins de gens difficiles aussi. Peut-être que tu recherches cela, une église avec la même démographie, ou au moins le même arrière-plan, et la même pratique biblique. Mais ce groupe parfaitement homogène et tellement agréable n'est pas vraiment vivre l'Église. Ce verset 1 nous force à côtoyer des gens qui n'ont pas les mêmes forces que nous, ni les mêmes points de vue. Je ne veux pas dire qu'ils sont bouddhistes ou laïcs, ici ce sont des chrétiens, mais ce sont des personnes que nous devons supporter. Et Paul termine en attaquant l'idée que la vie chrétienne consiste à faire ce que nous voulons, ce qui nous fait plaisir. Et il le dit de trois manières, au verset 1 clairement, au verset 2 par opposition, et au verset 3 par l'exemple de Christ. Au verset 2, il parle du contraire, il dit chercher à plaire à ton prochain pour son bien. Pense à faire grandir ton frère ou ta sœur. À l'époque où je prêche ce message et que le confinement est prolongé, la forme de cela va être différente, on doit respecter. Quand quelqu'un est fatigué ou n'a pas envie d'être inondé par des messages, même si on pense que c'est pour son bien, on doit respecter cela, que nous sommes différents. Mais je ne dois pas en faire une excuse pour être égoïste et ne penser qu'à moi. Ah, du moment que je vais bien, ben, tant pis pour les autres. Cette attitude-là est à l'opposé du christianisme de ces versets. Je pense aussi à quand nous nous retrouverons, et pour la question de la bise, c'est un exemple peut-être banal, mais il y aura certains qui voudront se faire la bise parce qu'on sera de retour, on sera ensemble, et d'autres qui diront, non, je préfère ne pas le faire, je me sens un peu mal à l'aise par rapport à ça. Comment est-ce que nous allons pouvoir vivre cela? Il faudra être sensible. Il faudra réfléchir aux autres et à ce que ils voudraient, et pas seulement à ce qui m'arrange moi ou ce qui me plaît moi. Et je dois réfléchir au plus important, c'est-à-dire sa foi. Il y a beaucoup d'articles de presse qui circulent et beaucoup de blagues aussi, mais y a-t-il des articles chrétiens que je pourrais passer à quelqu'un, que vous pourriez passer à quelqu'un d'autre? Y a-t-il un chant ou un auteur qui pourrait faire du bien à sa foi? Peut-être pas ton artiste préféré, ton artiste chrétien préféré, mais celui qui sera apprécié par ton frère ou par ta sœur en Christ. Verset 3 nous montre que Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait. En citant le psaume 69, Paul fait allusion à un homme juste qui a été menacé et qui a fait face à l'opposition, de l'opposition, mais qui a choisi de se mettre du côté de Dieu. Écoutez ce que dit ce même psaume. Que ceux qui espèrent en toi, Seigneur éternel, Maître de l'univers, ne soient pas honteux à cause de moi. Que ceux qui te cherchent ne rougissent pas à cause de moi, Dieu d'Israël. Voilà l'attitude chrétienne. C'est comprendre que ma façon de vivre en tant que chrétien peut avoir un impact négatif ou positif sur les autres chrétiens. Jésus a eu cette attitude, il a été fidèle jusqu'au bout. Il ne cherchait pas son confort, il cherchait à faire du bien aux autres. Les insultes sont retombées sur lui. Et quand? Au moment de la crucifixion, à la croix de Christ, nous voyons le sommet de cette attitude, qui n'est pas égoïste, mais généreuse. Si Jésus voulait être égoïste, il ne serait jamais allé à la croix. Il a préféré être insulté que faire ce qui lui plaisait. Ce n'est pas l'apôtre Paul, mais Jésus-Christ qui est le champion en ce domaine. Il était prêt à donner sa vie pour des personnes qui ne le méritaient pas. Et si Jésus a donné sa vie, je peux me passer de ma liberté dans certaines circonstances, afin de ne pas choquer mon frère ou ma sœur. Que dire? Que faire donc? Il y a une certaine discrétion à avoir sur ces positions. Gardez votre point de vue entre vous et Dieu. La Bible n'est pas catégorique, il y a une marge d'opinion. Mais nous pouvons pratiquer ces choses ou pas. Que ce soit l'étudiante du pays de Galles qui ne voulait pas boire de l'alcool ou le jeune Marocain qui n'a pas envie de manger du porc, en tant que chrétiens, ils sont libres. D'autres chrétiens seront arrivés à d'autres conclusions en réfléchissant à la Bible et penseront qu'un verre de vin ou un pain saucisse ne sont pas exclus pour les chrétiens. Ils sont libres aussi. J'aime bien ce que dit le verset 6 du chapitre 14. Celui qui mange de tout, c'est pour le Seigneur qu'il le fait. On ne doit pas oublier cela. Mais il dit après, celui qui ne mange pas de tout, le fait aussi pour le Seigneur. Nous avons vu ce matin que ceux qui se sentent plus libres doivent néanmoins faire un effort supplémentaire pour ne pas choquer les autres. que ce soit pour la nourriture, l'alcool ou un autre aspect de notre comportement. La semaine prochaine, nous aurons un message en lien avec le coronavirus. Continuons en prière pour notre pays. Dans le jeûne, aujourd'hui, il y a eu un appel pour plusieurs églises dans différents pays, les églises protestantes, à pouvoir donner du temps dans le jeûne et la prière aujourd'hui pour la crise que nous vivons et pour la pandémie, afin que nous puissions être délivrés de cela. Si nous pouvons jeûner aujourd'hui pour cela, faisons-le. Mais prions maintenant pour terminer ce message. Tout d'abord, Père Céleste, nous te remercions que Christ n'a pas recherché ce qui lui plaisait, mais il a cherché à faire ta volonté et à se donner à la croix. Nous te louons que nous pouvons recevoir le pardon par cette croix. Nous voulons vivre les aspects de ton royaume qui sont énumérés ici, la justice, la paix et la joie. Donne-nous ces qualités. Nous avons hâte de pouvoir nous retrouver, ici-bas, on l'espère, avec nos frères et sœurs. Aide-nous à supporter le confinement avec ses défis, avec ses différences. Donne-nous aussi de prendre à cœur ce que nous avons entendu ce matin, que lorsque nous serons ensemble, nous ne pensions pas à nous, à nos plaisirs, à nos goûts, à notre opinion personnelle sur des sujets secondaires, mais aux autres, à leur bien, à leur foi, à les fortifier, à les édifier. Et là où nous avons déjà l'occasion de fortifier un frère, une sœur dans sa foi, donne-nous de le faire avec un cœur joyeux et paisible. Amen.